Il y a maintenant 5 ou 6 ans au Québec, j'ai loué une voiture en arrivant ici, avant de déménager ici. Je mettais ma valise dans le coffre quand j'ai vu écrite sur ma plaque d'immatriculation une phrase qui était intéressante à mes yeux. Je me souviens. C'est ça, la phrase. Est-ce que vous avez déjà noté la phrase? Je me souviens, les enfants aussi? Oui? OK. Alors moi, en tant qu'Américain, je ne connaissais pas l'expression « je me souviens ». Donc ceci a déclenché en moi une pensée qu'en fait, ce qui était écrit sur ma plaque d'immatriculation déclarait quelque chose que je ne comprenais pas, personnellement. Ça me gênait un peu, donc j'ai fait une petite recherche là-dessus pour connaître un petit peu mieux pourquoi cette phrase serait affichée partout au Québec. Pourquoi je me souviens? Alors, je profite de ce petit récit pour vous poser une question avant d'aller plus loin. Vous en souvenez-vous? Est-ce que tout le monde ici est au courant de l'explication de cette phrase? On peut quand même étudier cette phrase longtemps. Il y a beaucoup de choses écrites maintenant là-dessus, même si son origine et sa signification n'est pas 100% claire pour les historiens. Par contre, un homme qui s'appelle Thomas Chappé, dans un discours donné à l'occasion du dévoilement d'une statue en bronze à la mémoire du duc de Lévis en 1895, dit ceci à propos de « Je me souviens ». Il dit « La province de Québec a une devise dont elle est fière et qu'elle aime à graver au fronton de ses monuments et de ses palais. » Cette devise n'a que 3 mots, je me souviens. Mais ces 3 mots, dans leur simple laconisme, valent le plus éloquent discours. Et puis, j'insiste sur ce qui suit. Oui, nous nous souvenons. Nous nous souvenons du passé et de ses leçons, du passé et de ses malheurs, du passé et de ses gloires. Donc, pour Thomas Chappé, il y avait 3 choses en particulier. Les leçons du passé, les malheurs du passé et les gloires du passé. Ce sont 3 thématiques assez intéressantes quand vous considérez l'histoire, de la Nouvelle-France et du Québec. Il y a bien d'autres interprétations de cette devise que je pourrais vous citer, mais je crois que nous sommes tombés sur une interprétation qui se marie bien avec le sujet de mon sermon aujourd'hui. Alors, pour commencer aujourd'hui, reportons-nous au psaume 78. Psaume 78. Nous sommes aujourd'hui ici lors d'une convocation sainte, une sainte convocation qui fait partie de la fête des pains sans levain. Nous sommes là aujourd'hui ensemble parce que nous nous souvenons de quelque chose de très particulier et de très important. Important non pas pour l'histoire, mais pour notre vie spirituelle. Le psaume 78, Cantique d'Asaph, verset 1. Mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Wow, il y a beaucoup d'accent ici, hein? On souligne la sagesse, on souligne l'instruction, l'enseignement, hein, les temps anciens, quelque chose qui est publié de génération en génération. Tout ça est souligné dans les 2 versets. Puis nous avons le verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. D'abord, il y a 3 domaines différents aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous savez déjà? Qu'est-ce que vos pères vous ont raconté? Il y a des différentes voies de notre apprentissage, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous avons des différentes façons d'apprendre. On dit que certaines personnes sont très visuelles. Ils apprennent beaucoup par le visuel. D'autres sont très audio. Ils apprennent par écouter, par entendre. Et donc, d'autres apprennent beaucoup à la lecture. Je crois que tout le monde quand on lit bien, on apprend beaucoup à la lecture. Donc, on peut comprendre que la sagesse, que notre apprentissage, notre formation, si vous voulez, et même notre passé, notre histoire, soit composé de ces choses de très différentes, ces voies, si vous voulez, différentes. Verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Est-ce que nous déclarons des louanges de l'Éternel à nos enfants, à la génération montante? Est-ce que nous avons des exemples personnels pour discuter avec nos enfants, avec la génération montante, de tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous délivrer? Verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Qui a fait ça? L'Éternel, n'est-ce pas? Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Donc, non pas seulement une loi pour une génération, mais une loi perpétuelle, n'est-ce pas? Quelque chose qui touche chacun d'entre nous aujourd'hui. Verset 6, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ça me fait penser au propos de Jésus-Christ lui-même, qui dit, ce n'est pas simplement pour ceux qui m'entendent, mais ceux qui vont entendre, ceux qui vont apprendre. Même dans ses propos, il pensait à la long terme. Verset 7, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Est-ce que nous mettons en Dieu notre confiance? Qu'est-ce qui se produit quand nous mettons en Dieu notre confiance? Est-ce que ça nous enlève des craintes, des peurs, des choses comme ça, des inquiétudes quand nous mettons en Dieu notre confiance? J'espère que oui. Ça continue. Qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Des fois, dans la vie, nous concentrons sur nos propres accomplissements, n'est-ce pas? Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai fait ça. Quand j'avais 20 ans, j'ai pu faire ça. J'ai accompli ceci. J'avais acheté ça. J'avais construit ça. J'avais fait ça. J'ai fait ça. Mais quand nous racontons notre vie dans notre perspective, ce que nous allons découvrir, c'est qu'on peut dire, quand j'avais 18 ans, Dieu m'a fait ça. Quand j'avais 20 ans, c'est ça que Dieu m'a dit ou que Dieu m'a appris. C'est quand des choses comme ça, ça change de notre perspective, n'est-ce pas? Et ce n'est pas juste un texte, ce n'est pas juste des commandements en noir et blanc, c'est quelque chose qui est en nous, qui est développé en nous, qui vit en nous. Et puis ça continue, et qu'ils observent ces commandements. Voilà. Verset 8, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. C'est intéressant que cette génération n'est pas entrée dans la terre promise. Cette race, cette génération indocile et rebelle, on pense à eux, on pense au fait que Dieu n'a pas cessé de travailler avec eux, de les mener pendant 40 ans dans le désert, mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette période? Ils préparaient la génération future. Eux, ils étaient rebelles, idolâtres. Ils avaient l'espoir de rentrer en Égypte plusieurs fois. Ils préféraient les concombres et les choses, les tomates, les oignons, je ne sais pas, d'Égypte, l'ail de l'Égypte au lieu de la manne qui tombait du ciel. Ils avaient l'estomac pour rentrer en Égypte. Des fois, les hommes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est guidé un peu par l'estomac, n'est-ce pas? Et puis, si on n'a pas bien mangé, on est un peu grincheux des fois aussi, ça peut arriver. Mais imaginez 40 ans dans le désert, sans beaucoup de choses à choisir. Donc, c'est peut-être plus facile pour nous, après avoir bien mangé, de critiquer les enfants d'Israël, mais nous avons des mêmes tendances en nous, l'homme naturel. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui nous donne la possibilité de surmonter ces choses. Alors, avant de recevoir l'appel de notre Père céleste, nous ne savions pas mieux que ce que nos pères nous avaient enseigné, n'est-ce pas? Ce que nous avions entendu, ce que nous savions et ce que nos pères avaient enseigné. Mais après tout, qu'est-ce que nos pères nous ont appris? Ben, ils ont appris quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que votre père travaillait avec vous? Est-ce que vos pères étaient à votre côté pour vous enseigner, pour vous faire des rappels, pour vous parler de la vie, de comment réussir, pour comment faire quelque chose? Est-ce que vos pères ont appris à vous des savoirs, des techniques, des intérêts que vous avez gardés pour vous aussi? Peut-être le sport. Mon père m'a appris comment jouer les sports, passer beaucoup de temps avec moi pour ça. Alors, considérons, pour répondre à cette question, quelques exemples bibliques. D'abord, dans Jérémie 9, le prophète Jérémie décrit l'apostasie et l'oubli que font les générations, génération après génération, en Israël. Qu'est-ce qu'Israël faisait? Les pères apprenaient la mauvaise voie à leurs enfants. Ils apprenaient des traditions d'hommes. Ils enseignaient même l'idolâtrie à leurs enfants. Jusqu'au point que l'Éternel les a tous jugés. Jérémie 9 et le verset 11. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants, un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qui le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? Donc, deux références au désert. Désert ici. On ne parle pas de dessert, si c'est après le repas. Mais le désert ici, deux références. Et qu'est-ce que faisaient les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte? Passaient du temps dans le désert, dans les bois, dans le désert. Donc, c'est intéressant parce que c'est ça que l'Éternel dit. C'est comme si, après avoir établi le pays, établit la nation d'Israël, le jugement, c'était de recommencer à zéro. C'était, si vous m'oubliez, alors j'enlève ces choses finalement. J'enlève toutes ces bénédictions. J'enlève les maisons. J'enlève les murs qui vous protègent. J'enlève vos biens et vous sortez dans le désert. C'est assez sévère, n'est-ce pas? Mais en face, qu'est-ce qu'ils avaient appris à leurs enfants? Verset 13, l'Éternel dit, « C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals. » comme leurs pères le leur ont appris. Donc, ce n'était pas juste une génération rebelle, mais ça s'est reproduit de génération en génération. Notez bien, ils sont allés après les Baals. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est les pratiques païennes. Qu'est-ce que nous voyons autour de nous dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons dans nos pays de Canada, des États-Unis, bien bénis avec de l'abondance? On voit la pratique des fêtes païennes. On voit ces choses. Ensuite, considérant les propos de l'apôtre Paul, qui explique son zèle excessif, non pour servir Dieu, non pour servir les Baals, mais pour servir les traditions de ses ancêtres. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. En fait, dans la tradition que Paul avait appris, c'était une application légaliste de la loi de Dieu, sans l'amour et avec beaucoup d'hypocrisie, avec le levain des pharisiens. C'était de cette génération que Paul avait appris son zèle et ses pratiques, n'est-ce pas? Ce sont les traditions de ses ancêtres, de ses pères. Galates chapitre 1, verset 13. « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Donc, on a un secte, on a les pharisiens, on a des personnes dans le pouvoir qui ont persécuté l'Église de Dieu, pas avec les traditions des Baals, pas avec le paganisme, mais même en se servant de la loi de Dieu. La mauvaise interprétation, une interprétation sévère et légaliste pour punir et pour rester dans le pouvoir. Verset 14. « Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Donc, il y a un autre penchant, si vous voulez. Il y a une autre voie ici. Ce n'est pas l'apprentissage des Baals, mais c'est un zèle trop excessif pour les traditions de ses pères. Ça veut dire qu'il a mal compris le but de la loi de Dieu. Et il persécutait à outrance l'Église de Dieu. Il faisait vraiment mal aux gens. Physiquement même, il faisait mal aux gens avec son équipe. Alors puis, dans son épître, l'épître de Paul à Colosse, les Colossiens, l'apôtre Paul donne un avertissement contre la tromperie aussi. Il y a une autre façon d'abandonner la voie de Dieu. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Des fois, on a juste une perspective assez restreinte de ces choses, mais on comprend que finalement, il n'y a pas juste une seule façon de tomber dans la fossée, si vous voulez. Donc, Colossiens. C'est beaucoup de références de M. MacArthur ici. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Encore, les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc, on peut avoir mal compris ou on peut avoir appris quelque chose de nos pères. Ça, c'est l'une des choses qui peuvent nous impacter. Mais ici, Paul nous avertit contre l'idée d'être séduit par les philosophies, la vaine tromperie. Les choses ici retombent de nouveau sur la tradition des hommes aussi, les principes de ce monde, et non sur Christ. Frères et sœurs, la fête des pains sans levain représente beaucoup plus qu'une tradition de nos pères. Ce n'est pas juste une fête pour célébrer l'histoire. Mais on peut reconnaître quelque chose qui s'est produit, plusieurs choses qui se sont produites. C'est pour ça que j'ai choisi le psaume 78. Et aussi, c'est pour ça que nous allons considérer l'Exode, chapitre 14 aussi. Exode, chapitre 14. Il y a eu un miracle très important ici. Nous allons souligner cette intervention directe de Dieu pour son peuple, pour couper ce peuple de ceux qui les poursuivaient, pour couper ce peuple de leurs ennemis, pour leur donner la paix, la liberté. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Autrement dit, ils n'ont pas nagé. Pour les enfants d'Israël, ce miracle fut très important. L'Éternel donna à son peuple une issue de secours, si vous voulez. En même temps, il a détruit l'armée égyptienne qui les poursuivait. Considérant le verset 27, Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Tellement ils avaient la rage, tellement ils avaient envie de détruire ce peuple, ils ont précipité au milieu de la mer. Verset 28, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Quand Dieu décide d'intervenir pour nous, il peut le faire très définitivement, n'est-ce pas? Il a la capacité de couper certaines choses, de nous démontrer son pouvoir, sa force. Tous les ans, nous observons la fête des pains sans levain pendant 7 jours, ce chiffre de perfection, n'est-ce pas? Nous venons de passer 7 jours sans avoir le levain dans nos domiciles, sans manger le levain. Et ce pratique d'enlever le levain de nos maisons est ordonné par l'Éternel pour les chrétiens afin de nous rappeler qu'il faut toujours éliminer le péché de nos vies en le remplaçant par le pain sans levain de la justice, de la sincérité, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 5, de la pureté que nous apprenons de la parole de Dieu. C'est un remplacement. On enlève quelque chose de mal, la méchanceté, et on apprend la justice. Ces deux choses à la fois sont l'emphase de ces 7 jours. Les 7 jours de la fête des pains sans levain sont très signifiants. Le chiffre 7 dans la Bible est souvent associé avec l'achèvement ou la perfection. Si nous lisons Exode 14, verset 27-28, c'est quand même l'achèvement complet de son intervention, n'est-ce pas? C'est même marqué, il n'en échappa pas un seul entre eux. Ils n'avaient pas à craindre après que les armées les pourchassent. Par contre, ils avaient quand même tendance de dire, est-ce qu'on peut pas rentrer en Égypte? Nous allons considérer ça bientôt. Pendant la fête des pains sans levain, nous nous souvenons comment l'Éternel nous a délivrés de notre ignorance, à sa voix, à ses voix, à sa loi. Il nous a délivrés de notre esclavage au péché. Et voilà pourquoi Dieu nous a préservé l'exemple des enfants d'Israël, cela fait partie de notre propre « je me souviens ». C'est pas lié au Québec, mais lié à notre appartenance à l'Église de Dieu. La soirée mémorable nous a donné la possibilité de partager ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons partager ensemble comment Dieu nous a sortis de la voie du péché, comment il est intervenu pour nous. Lisons plus loin maintenant, en psaume 78, et réfléchissons en même temps à ce que l'Éternel a fait pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons ici aujourd'hui, assis dans cette salle, en train de vivre la vie que nous menons. J'espère que nous allons méditer les moments où Dieu est intervenu pour nous. J'espère que pendant la lecture de ce psaume, les versets ici, nous allons pouvoir relier les liens, les points, si vous voulez, relier l'histoire des enfants d'Israël et notre propre histoire. Nous en souvenons-nous des miracles que Dieu a produits dans notre vie? Est-ce que nous aimons partager ces choses avec nos amis, avec nos proches, avec nos enfants? C'est l'une des responsabilités des parents. Est-ce que nous nous souvenons des miracles pour la nouvelle compréhension de sa vérité? Est-ce que nous avons en tête le moment où « Ah, j'ai compris le sabbat » ou « Dieu m'a montré que le sabbat était important »« Dieu m'a montré que ces fêtes sont importantes » « Dieu m'a montré que la loi n'est pas abolie », par exemple. Certaines vérités comme ça. Moi, j'ai beaucoup de petites histoires à partager avec vous sur mon appel, sur ma sortie de la voie que je menais avant. J'espère que vous avez aussi les vôtres. Mais considérons maintenant au psaume 78, le verset 12. « Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. » Nous venons de lire de ça. « Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? « Et ils donnaient à boire comme des flots abondants. » Verset 16, « Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. » Devant nos yeux, nous avons vu des miracles. Bien sûr, les enfants d'Israël avaient vu des miracles devant leurs propres yeux, même avant la sortie d'Égypte avec les 10 plaies. Ils avaient déjà observé l'intervention directe de l'Éternel Dieu. Maintenant, verset 17, « Mais », il y a toujours ce mot « mais » qui nous intéresse, n'est-ce pas? « Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. » Ils continuaient à pécher. Dans leur vie, ces miracles, même les voir avec leurs propres yeux, même voir la possibilité de marcher à sec à travers la mer Rouge, ils avaient quand même oublié. Et ils n'avaient pas laissé derrière eux quelque chose peut-être même plus important que les armées de Pharaon. Ils auraient dû laisser le péché, laisser l'idolâtrie derrière eux, n'est-ce pas? Et cet esprit de révolte, cet esprit de rébellion, d'indépendance, de faire comme on veut, ou de faire comme moi j'aurais fait. Ils auraient dû laisser tout ça derrière eux pour pouvoir mieux suivre celui qui les avait livrés. Mais eux, ils avaient un comportement, ils avaient quand même une habitude, ils avaient développé certaines habitudes. On peut penser aux habitudes d'être en esclavage, une habitude d'être indépendant. Ils avaient quand même participé à une certaine pas une révolte, mais une sortie de leur terre, de la terre d'Égypte, du pays d'Égypte. La main levée, n'est-ce pas? Ils avaient pas le pain levé, mais ils avaient la main levée quand ils sont sortis d'Égypte. Est-ce que, en prenant les richesses d'Égypte, est-ce que ça a donné une problématique après? On ne sait pas, mais ils avaient un caractère endurci et rebelle. Peut-être après plusieurs générations d'esclavage en Égypte, peut-être. Mais de toute façon, il semble qu'ils n'étaient pas satisfaits avec le fait d'être simplement sortis d'Égypte. Verset 18. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Toujours après toujours, nous voyons le cœur, hein? Très important, ce qui se passe ici dans le cœur. Dans la Bible, c'est un thème qui se répète souvent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En demandant de la nourriture selon leurs désirs. C'est bizarre, car ils ont dédaigné la bénédiction de la délivrance du pays d'Égypte. Ils ne la voyaient plus comme une bénédiction, leur délivrance. Ils avaient commencé à voir cette nouvelle vie comme une vie de souffrance. Est-ce que c'est possible que nous aussi, des fois, on a le penchant, on a la tendance peut-être de voir plus les souffrances d'obéir à Dieu que de voir les bénédictions qu'il nous a déjà offertes et promises? Eux, ils ne voyaient plus comme une bénédiction, mais ils voyaient cette délivrance du pays d'Égypte même, de l'esclavage, comme un fardeau. De devoir passer par le désert, c'est trop. Moi, j'aimerais bien sortir, mais je ne veux pas passer par le désert. S'il faut que je passe par le désert, moi, je fais demi-tour, je rentre en Égypte. Parce que là-bas, au moins, il y avait de quoi manger. C'est un peu ça qu'ils vont dire. Je crois que nous pouvons tous ressentir des parallèles entre ce qui s'est passé ici et les attitudes de ceux qui arrivent à l'interprétation aujourd'hui, que tous les faits de Dieu, la loi, les commandements, représentent un fardeau. C'est quelque chose que le monde va vous dire, si vous n'avez pas déjà entendu, c'est que vous mettez un fardeau avec le respect de ces fêtes de l'Éternel. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai sorti de ce monde. Ils m'ont dit, pourquoi obéis-tu à la loi comme ça? La loi, c'est un fardeau. Les fêtes de l'Éternel, même le sabbat, le respect du sabbat, ils disent, c'est un fardeau que nous imposons. Imaginez, c'est tout à l'inverse, n'est-ce pas? C'est une attitude rebelle contre la loi de Dieu. Et c'est rien de nouveau, hein? Ça existe depuis la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Mais les enfants d'Israël marchaient souvent à contre-cœur. Ils étaient présents, mais ils n'étaient pas là avec leur cœur. Ils avaient un cœur qui allait dans un autre sens, qui voulait pas être là, qui préférait d'être là où ils étaient avant, qui voulait se séparer, qui voulait pas marcher en suivant la colonne de feu et la colonne de nuée. Leur cœur n'était pas dans la bonne place. Donc Dieu a vu ça. Dieu a lu le cœur de ces gens. Plus que Moïse, plus que les autres, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a lu le cœur de ce peuple. Il marchait contre-cœur. Il marchait, même si l'Éternel les guidait, peut-être il marchait parce que s'ils avaient quitté, ils allaient mourir directement dans le désert. Ils n'avaient pas de choix dans ce sens-là. Mais il marchait à contre-cœur. Ça nous explique beaucoup, n'est-ce pas? Le plan de Dieu, par contre, ne s'arrêtait pas avec eux. Dieu avait prévu qu'une autre génération montante soit ceux qui entrent dans la terre promise après 40 ans dans le désert. Dieu a toujours un plan plus grand, une perspective plus large que nous. Mais des questions se soulèvent quand même pour nous en lisant l'histoire de ces enfants d'Israël lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte. Donc, on va parler de trois questions pendant le reste de ce sermon. Trois questions vis-à-vis de ce que nous apprenons ici. Quand nous lisons ce psaume, et nous allons continuer à le lire, nous avons peut-être certaines questions, parce que on peut se dire, si j'étais à leur place, je ferais comme ceci. J'aurais fait ça. Si j'étais à leur place, j'aurais fait ça. Et pour résumer, les trois questions indépendantes, mais bien liées, sont, qu'attendaient-ils de Dieu? Qu'est-ce qu'ils attendaient de Dieu? Et puis, qu'est-ce qu'ils attendaient de Moïse? Et qu'est-ce qu'ils attendaient d'eux-mêmes? Quelles étaient, si vous voulez résumer, quelles étaient leurs attentes de Dieu, de Moïse et d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils avaient certaines attentes de Dieu? Est-ce qu'ils avaient certaines attentes de Moïse? Et est-ce qu'ils avaient des attentes d'eux-mêmes? C'est sûr que leur cœur n'était pas bien placé. Mais dans ce contexte de ce souvenir, notre « je me souviens », notre vie personnelle, notre propre incapacité d'oublier, nous pouvons aussi considérer ces questions, mais dans une application personnelle. On peut plutôt dire, qu'est-ce que moi j'attends de Dieu? Quelles sont mes attentes de Dieu? Quelles sont mes attentes de l'Église, au lieu de dire Moïse? Et quelles sont mes attentes de moi-même? Donc, résumons ces questions comme ça, et puis on va les prendre un par un. Alors, quelles sont nos attentes de Dieu? Eux, ils attendaient que Dieu leur donne à manger, mais ils doutaient tout en même temps, en parlant contre lui. Le psaume 78 encore, le verset 19. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Donc, ils se moquaient un petit peu. Ils doutaient d'intervention, même après avoir vu tout ça. Ils attendaient que Dieu leur donne à boire dans le désert, mais ils n'étaient pas satisfaits. Donc, ils se moquaient de Dieu. Verset 20. « Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? » Mais Dieu, l'Éternel, entendit ces choses. Ce doute était très clair. Ces pensées rebelles étaient très claires aux yeux de Dieu. Puis verset 21. L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Est-ce que nous avons bien confiance dans son secours? Est-ce que nous avons confiance quand nous appelons 911 que quelqu'un va nous traiter si nous sommes en train de mourir? Peut-être pas aujourd'hui, mais c'est l'objectif quand même de vous donner la confiance que si vous appelez 911, que tout est organisé, tout est en place pour vous sauver la vie. C'est l'objectif. Même si des fois on a du mal à mettre en pratique certaines choses dans notre société moderne. Alors, est-ce que nous avons confiance quand, vis-à-vis de Dieu, nous faisons le 911 et nous disons à Dieu, interviens pour moi, j'ai besoin de ton intervention. Est-ce que nous avons confiance qu'il nous écoute au moins? Des fois on pense que nous pouvons juste dire à Dieu, fais comme ceci, fais comme ça, comme cela. Mais il est une bénédiction qui nous écoute. Il sait ce dont nous avons besoin et il a le pouvoir d'intervenir pour nous. C'est ça notre foi. C'est ça notre foi. On compte sur lui, on met notre confiance en lui. Alors comment ce peuple, après tout ce qu'ils ont vu, comment ne pas croire en Dieu? Asaph, qui a écrit ce psaume, revient plus tard avec la liste détaillée de tous les miracles à la sortie d'Égypte. Tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Mais Au verset 23 à 29, nous lisons qu'Israël a payé cher pour ne pas avoir cru, pour ne pas avoir eu confiance dans le secours de l'Éternel. Considérons le verset 23. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Donc le pain du ciel, le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par la puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, imaginez-vous, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Donc, on ne se doutait pas que ce soit un miracle. Mais on doutait que Dieu faisait ces choses pour leur bien. Intéressant, hein? On avait la possibilité, ça ne demandait pas la foi de comprendre qu'il y avait de la viande qui tombait du ciel. Ça ne demande pas la foi. Hein? Parce qu'on le voit avec nos yeux, n'est-ce pas? La foi, c'est l'évidence de ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Mais eux, même s'ils ont vu ces choses, ils doutaient l'objectif, ils doutaient l'amour de Dieu, ils doutaient le fait qu'ils puissent mettre confiance en Dieu. Ils doutaient pas que c'est un miracle qui s'est produit. Donc c'est quand même peut-être un point à méditer. Regardons de plus près cette histoire et les échanges entre Moïse et l'Éternel et le peuple d'Israël. Nous avons l'exemple dans Nombre, chapitre 11. Donc, gardons notre place dans Psaume 78. Mais Nombre 11 et le verset 18. Nombre 11 et le verset 18. C'est très triste. Mais c'est quelque chose qui nous apporte une leçon. Verset 18 jusqu'au verset 20. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Voyez, ils ont demandé, mais en même temps, ils avaient préférence de rentrer en esclavage en Égypte. Ça me fait penser à Jacques chapitre 1. Le fait qu'on peut demander quelque chose et tout de suite après, on peut se mettre en doute. Verset 19, vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier. Jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Donc, ils avaient la viande pendant un mois. Si j'avais un bon steak pendant un mois, est-ce que je ne sais pas si ça a été terrible ou pas. Je pourrais m'adapter, je crois, au steak. Mais c'était pas leur but. Eux, ils avaient un cœur rebelle. Ils avaient un cœur contre la voix de Dieu. Mais, verset 21, ce qui se passe ici, Moïse dit, verset 21 à 23, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. C'est quand même, on commence à faire un petit calcul de combien de viande ça demande. Verset 22, égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Dans un sens, même Moïse était un peu douteux de ce qui allait se produire. Et nous connaissons l'histoire ici. C'est vraiment beaucoup de viande. Et l'idée, c'est que Dieu leur a donné à manger. Donc, un peu plus loin dans le verset 31, « L'Éternel fit souffler de la mer au vent, qui amena des cailles, et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté, et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. » Donc, pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dit au maire. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Malheureusement, ça n'a pas eu l'impact au niveau spirituel, si vous voulez, ou la relation, parce que verset 34 nous révèle « On donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hattava, parce qu'on y entrera le peuple que la convoitise avait saisi. » On voit ce péché, le 10e commandement, la convoitise est là, présent. Dans ce peuple, ils avaient convoitise pour les luxes d'Égypte, même en esclavage. Même s'ils avaient passé 430 ans en Égypte, ils avaient besoin, ils avaient envie d'y rentrer. Donc, on peut retourner au psaume 78. Le psaume 78, on avait gardé notre place. Verset 30, ceci, la convoitise, le désir de manger, ces choses sont des passions, n'est-ce pas? Ce sont des désirs, les passions. Et qu'est-ce qui s'est produit? Verset 30, ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Ils n'ont pas eu la satisfaction. Ils n'étaient pas contents, même après tout ça. Puis, dans les versets suivants, nous voyons qu'ils ont mérité une punition sévère. Verset 31, « Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. » Même après la punition sévère, ils avaient continué à pécher et ne crurent point à ces prodigues. Il consomma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. C'est la voie qui mène au péché, n'est-ce pas, et à la mort. C'est la voie du péché qui mène à la mort. C'est des jours passés avec les passions, avec des désirs, sans le cœur dans la bonne place. Ça devient une sorte de vanité. Ça devient des années écoulées qui n'ont rien produit, alors que Dieu nous demande de produire du fruit avec son esprit en nous. Donc nous ne sommes pas censés de vivre des années dans la vanité. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Il est en train de travailler en nous et à travers nous pour accomplir sa volonté. Si on garde notre cœur dans la bonne place. Donc ici, nous mettons l'accent sur les faiblesses de l'homme, sur la nécessité pour nous de revêtir le caractère de Dieu. Un peu plus loin, dans le verset 35, ils se souvenaient que Dieu était leur rocher. Après tout ça, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Donc finalement, quelqu'un avait compris un petit peu. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Intéressant, la fidélité à l'alliance, encore ce mot « essed », cet engagement envers Dieu pour tous les jours de notre vie, malgré les considérations de situation, les choses qui nous entourent, on est toujours fidèle. Dans un sens, la notion de mauvaise foi est développée ici, parce que c'est marqué que eux, ils avaient quand même le souvenir. Le verset 35 nous explique qu'ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, mais il y avait quelque chose en plus. Il y avait une mauvaise foi. Dans les cours de justice, la mauvaise foi veut dire un acte malhonnête, intentionnel, qui consiste à ne pas respecter des obligations légales ou contractuelles pour tromper autrui, pour conclure un accord sans avoir l'intention ou les moyens de le respecter. Ça, c'est un acte de mauvaise foi. C'est dire, oui, je vais faire ça, quand tu sais dans la tête que tu ne peux pas ou tu ne vas pas faire ça. Ça, c'est un acte de mauvaise foi. Mais les enfants d'Israël et leur caractère rebelle sont devenus des exemples pour nous. Nous ne sommes pas condamnés à répéter ces erreurs. Nous sommes avertis d'avance. Une autre question que nous allions mentionner, qu'attendons-nous de l'Église? Eux, on peut comprendre qu'ils attendaient de Moïse un certain leadership et que Moïse et Aaron allaient mener le peuple et juger. Mais qu'est-ce que nous attendons de l'Église? Les enfants d'Israël ont trahi Moïse à plusieurs reprises. Ils étaient très vite à condamner les décisions de Moïse et ils murmuraient contre lui aussi. Nous faisons tous partie de l'Église, un corps spirituel aujourd'hui, composé d'êtres humains qui ne sont pas parfaits, et les membres de l'Église de Dieu sont liés par l'Esprit de Dieu. Considérons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et nous pouvons considérer les versets 11 à 16. Éphésiens chapitre 4. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est intéressant, le parallèle de ce qui s'est produit dans le désert avec la génération montante. Dieu avait prévu de préparer une génération pour entrer dans la terre promise. Donc, c'était un processus de travailler avec eux, de les mener par le désert où il n'y avait rien du tout, juste ce que Dieu leur a fourni. Et un parallèle ici, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est comme un bâtisse. On l'édifie, on va faire un édifice, on va faire quelque chose qui est construit petit à petit. Alors, le verset 12 ici peut signifier perfectionnement, ou aussi un mot qui veut dire, le mot grec ici, c'est catharsismos, d'où nous obtenons le mot catharsis. D'après la Larousse, catharsis veut dire la purification qui est produite dans un auditoire pour les spectateurs, pour une représentation dramatique. Ça, c'est un mot pour le catharsis. Un autre mot pour le catharsis, c'est plus intéressant peut-être pour nous, toute méthode thérapeutique qui vise à obtenir une situation de crise émotionnelle telle que cette manifestation critique provoque une solution du problème que la crise met en scène. Donc, l'idée, c'est que on n'a pas la capacité de comprendre la solution, sans qu'on soit dans une situation particulière. C'est la mise en situation qui fait apparaître la voie de secours, la voie de sortie ou la solution. Intéressant ce mot catharsis. Le perfectionnement des saints, c'est plus que juste se rendre parfait dans un sens, mais c'est pour produire une solution, pour produire un développement, l'édification, un processus qui est continuel et qui existe de génération en génération. Sautons les versets 13 à 15 et considérons le verset 16 ici. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, pendant la fête des pains sans levain, nous avons bien parlé de la levure qui fait gonfler. Ce n'est pas ce type d'accroissement que nous cherchons, hein? C'est quelque chose qui est plus solide, n'est-ce pas? Le solide assemblage qui est mentionné. C'est pas de nous gonfler de notre orgueil, bien sûr que non. Donc, qu'attendons-nous de l'Église? Quelles sont nos attentes de l'Église? Est-ce que nous avons le cœur bien placé dans l'Église aussi? Est-ce que nous sommes là parce que nous voyons que c'est Dieu qui inspire, que c'est Dieu qui nous amène ici et que Dieu accomplit quelque chose par les membres de l'Église, par ce corps qui est vraiment spirituel, mais qui est composé d'hommes et de femmes, d'enfants et de personnes âgées, participant tous dans un seul pain, dans un seul corps? Donc, est-ce que nous attendons de l'unité de l'Église? Est-ce que nous attendons que nous accomplissons l'œuvre de Dieu, sa volonté, avec nos propres mains, avec nos propres efforts, bien sûr inspirés par Dieu? C'est quand même beaucoup plus positif que ce que les enfants d'Israël avaient vécu dans le désert. Eux, ils étaient plutôt une race, une génération ou deux, ensemble, et ils étaient tous en train de souffrir, ils marchaient à contre-cœur, ils se plaignaient. Est-ce qu'on veut reproduire ça dans l'Église aujourd'hui? J'espère que non. J'espère que notre objectif ensemble, c'est de travailler ici, à notre fort intérieur, d'enlever ces mauvaises pensées, cet esprit de rébellion que eux ils avaient, et de s'aligner avec ce que Dieu nous enseigne de faire. Et pour rester positif, on peut fixer notre objectif à entrer tous ensemble dans le royaume de Dieu. C'est bien comme un objectif pour atteindre de l'Église de Dieu. Donc, troisième question, et la dernière question pour aujourd'hui, qu'attendons-nous de nous-mêmes? Quelles sont nos attentes pour nous-mêmes? Si nous considérons le psaume 78 encore une dernière fois pour aujourd'hui, nous allons considérer ce que nous devrions attendre de nous-mêmes. C'est bien de se fixer des objectifs personnels aussi, n'est-ce pas? Nous avons quand même la possibilité de travailler chacun à l'intérieur de nous. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas produire ces choses, ces changements dans quelqu'un. Il faut que ce changement soit de l'intérieur de la personne, que c'est la personne qui se décide de changer, d'aller plus loin, de persévérer, de rester accroché. Psaume 78, verset 38, jusqu'au verset 43. « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Dieu est miséricordieux avec nous aussi. Verset 39, « Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souviennent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodigues dans les campagnes de Tsoan. Donc, est-ce que nous attendons de nous un bon souvenir, un souvenir, si vous voulez, la capacité de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous, de garder ces choses devant nous quand nous sommes quand même dans une période où on manque de motivation peut-être, ou une période où on a des doutes. Est-ce que nous avons déjà développé ce réflexe de tomber sur les choses que Dieu a déjà données? Est-ce que nous pouvons nous réjouir dans la souffrance? Verset 55. Il chassa devant eux les nations. Hey, c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Leur distribua le pays en héritage et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. C'est quand même une belle image ici. Verset 56. Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ah, c'est dommage. Ils l'irritent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. C'est dommage, ils ont quand même commencé à apprendre les traditions des hommes de nouveau, à s'éloigner de la vérité, de la loi de Dieu. Mais nous devons prendre ça comme un contre-exemple, n'est-ce pas? Et nous focaliser sur le positif aujourd'hui, pour ne pas faire comme eux, mais de faire de notre mieux pour obéir à Dieu et ne pas marcher à contre-cœur de lui. C'est un bon début de ne pas faire comme eux, mais il faut quand même aller plus loin que ça. Nous ne pouvons pas simplement ne pas faire comme eux, nous devons faire aussi. Et nous devons faire comme Jésus-Christ. Nous devons imiter l'amour et le comportement, le caractère de Jésus-Christ pour que Dieu développe son caractère en nous. Alors, ce n'est pas simplement on ne va pas faire comme eux, c'est on va chercher à s'engager à 100% pour faire pour Dieu. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, il a mentionné plusieurs points concernant ce que nous appelons la vie chrétienne, nos attentes dans la vie chrétienne, les normes, si vous voulez, pour le comportement des membres de l'Église de Dieu. Colossiens chapitre 1. On y va de nouveau. Colossiens chapitre 1. Il explique que lui et d'autres avaient prié pour que leur conduite soit digne de leur appel. Si Dieu nous a appelés, notre conduite, notre comportement devrait être digne de cet appel. Notre conduite, notre comportement devrait refléter l'importance de cet appel, la signification de cet appel dans notre vie. Le fait que Dieu nous a donné quand même la possibilité d'être, comme a été mentionné, le sel de la terre, la lumière du monde. C'est pas rien, ça, comme attente pour son peuple. Donc, dans Colossiens chapitre 1 et le verset 9, nous lisons ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, nous demandant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, envers Dieu, il faut qu'on soit agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Ce sont des belles attentes pour nous, les chrétiens. En faisant ceci, nous pouvons rendre grâce à Dieu aussi. Donc, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Dieu a fait tout ça pour nous. Il a fait tout ça pour nous. Le fait de développer ce caractère de Dieu, il a fait pour nous avant de nous demander de faire quelque chose pour lui. Considérons le chapitre 3 et le verset 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, à une longue liste d'attentes pour nous-mêmes. Je crois que si nous mettions plus l'accent sur les attentes de nous-mêmes, on passerait beaucoup moins de temps à se plaindre envers les autres, envers ce que nous n'avons pas. Verset 13, encore plus loin que ça, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc, c'est un échange de faire partie de ce corps de Christ, l'Église de Dieu, c'est un échange. On se pardonne. On va se rendre humbles les uns envers les autres. Il n'y a pas que ça non plus. C'est la réciprocité, hein? Verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Encore une fois, le sujet, le cœur. Ça commence là, n'est-ce pas? Pas à contre-cœur, mais un cœur disposé à Dieu. Et soyez reconnaissants, entre guillemets, rendez grâce à Dieu. Verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Vous vous souvenez de ce pain sans levain que nous mangeons depuis 7 jours? Que la parole de Christ demeure en nous comme tout ce pain délicieux que je mange depuis 7 jours. On a fait ça de 1000 variétés depuis 7 jours pour que on puisse vraiment aimer le goût de ce pain. Ce n'est pas juste quelque chose sec qu'on met dans la bouche, mais on a inventé plusieurs recettes. On devrait aimer aussi la parole de Dieu en nous comme ça, pour cette parole demeure en nous avec sa richesse. « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, c'est un cœur sincère, sincérité et pureté. C'est ça que nous avions lu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 5. Nous célébrons cette fête avec de la sincérité, avec de la pureté. C'est un cœur sincère pour servir Dieu, pour se souvenir de tout ce que Dieu veut de nous et tout ce que Dieu a fait pour nous et fait pour nous aussi. Paul poursuit en donnant des normes spécifiques à des différents groupes de personnes dans la congrégation, différents comportements pour des différentes tranches d'âge, mais nous souvenons tous que nous sommes un. Nous sommes le corps du Christ. Donc, quand nous nous demandons quelles sont mes attentes à moi, alors nous avons plusieurs endroits dans la Bible pour former une belle réponse à cette question. Donc, pour la conclusion aujourd'hui, vous en souvenez-vous? Vous en souvenez-vous? Nous souviendrons-nous? Nous souviendrons-nous du passé et de ses leçons? Nous souviendrons-nous du passé et de ses difficultés? Nous souviendrons-nous du passé et de ses gloires, grâce à Dieu qui nous a appelés? Les membres de l'Église de Dieu, nous avons la responsabilité de se souvenir de ces choses, de se souvenir non seulement de ses commandements, mais aussi de ses promesses et de tout ce qu'il fait du jour au jour pour son peuple au fil des générations. Je me souviens.